Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et invité de la deuxième et dernière partie des matins d'été, l'écrivain turc Nedim Kürsel, qui vit à Paris et qui n'a cessé de suivre tout au long du week-end l'actualité sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les sites des journaux et des médias turcs pour se tenir au courant avec ce coup d'État avorté qui a surpris absolument tout le monde, dont lui, il nous le disait à l'instant. Nedim Kürsel, vous qui êtes un homme de lettres, il y a un mot ce matin qui ressort vraiment en caractère gras et qui fait frissonner, la purge. On a commencé à entendre des chiffres qui sont absolument fous, hein, presque délirants. Plus de 2800 militaires arrêtés selon l'état-major des armées. Du côté de l'autorité judiciaire, on parle de 2745 juges qui vont être démis de leurs fonctions. Plus d'un millier également qui ont d'ores et déjà été arrêtés. Ça, c'est l'après coup d'État. Ça va être terrible selon vous?
Oui, d'abord, le mot purge convient tout à fait à cette situation désastreuse. Le pouvoir actuel ne se contente pas seulement de faire cette purge au sein des forces armées, mais la justice, qui n'était déjà pas indépendante, est concernée. Cela m'inquiète, car le nombre est impressionnant. Tous ces procureurs, tous ces magistrats sont soit écartés, soit inculpés, soit arrêtés, et parmi eux se trouvent aussi quelques membres de la Cour constitutionnelle. On attend la suite.
Et cette question du rétablissement de la peine de mort en réponse au putsch qui refait surface, c'est concevable?
Écoutez, c'est ça qui m'a vraiment touché profondément et qui m'a fait révolter quand j'ai entendu la population, je dirais le peuple d'Erdogan crier d'abord Allahu Akbar et puis après la peine de mort, la peine de mort, et le président leur répondre oui, on va voir ça. Franchement, est-ce qu'on peut défendre la démocratie en rétablissant la peine de mort? Je me pose la question, mais ceci n'est pas possible.
C'est-à-dire un retour du religieux d'un côté avec
ça n'existe pas. C'est-à-dire, si la Turquie maintient sa candidature à l'Union européenne, cette chose n'est pas possible. Mais les dirigeants politiques font semblant de l'ignorer.
C'est-à-dire un retour du religieux d'un côté, vous disiez, avec ces cris de Allahu Akbar, et puis d'un autre, effectivement, l'hypothèse d'un retour de la peine de mort qui peut être pensée et même acclamée. Là, pour vous, c'est vraiment la fin de la démocratie telle qu'elle se présente aujourd'hui en Turquie?
Je crois que c'est une bonne chose que la population descende dans la rue contre le coup d'État, mais elle reste toujours dans la rue à la demande du président Erdogan, et cela m'inquiète. Il faut que ces gens, maintenant que tout est fini, rentrent chez eux. Et je peur que le président donc profite de cette situation pour prendre des mesures encore plus autoritaires en s'appuyant sur cette population. Cela dit, je ne remets pas en cause sa légitimité. Il a été élu donc président au suffrage universel. Je note que la campagne électorale n'a pas été très équitable, mais donc il est un président légitime, mais selon la constitution actuelle, il doit rester au-dessus des partis et il fait tout à fait le contraire. Franchement, la Turquie évolue vers une situation que je ne souhaite pas. C'est-à-dire, on parlait de la dérive autoritaire. Si le système présidentiel est instauré comme Erdogan le souhaite, ça va être plus que de l'autoritarisme.
Mais justement, sur cette question de l'autorité, dans l'émission La Grande Table sur France Culture, vous étiez invité en février dernier, vous disiez déjà, c'est un roman, en parlant du fils du capitaine, qui règle ses comptes avec l'autorité. Pour moi, en Turquie, la grande question est celle de l'autorité. Alors, le thème principal de votre roman, c'est l'autorité, celle de l'armée, celle du pouvoir, mais aussi celle du père. Erdogan n'est jamais cité, mais vous y faites un peu allusion avec ce premier ministre à la moustache en forme d'amende. Est-ce que vous pouvez dire que quelque part, toutes les manifestations, toutes les graines de cette dérive autoritaire étaient déjà là avant ce week-end ?
Oui, tout à fait. Nous avons eu ces dernières années, en la personne de M. Erdogan, une sorte de papa de la nation qui lui dit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger, et la manière dont elle doit se comporter. Tout cela, évidemment, me fait penser à la société patriarcale, et la Turquie moderne doit se débarrasser de cette forme. Mais ce n'est pas le cas.
Et ça ne sera peut-être pas le cas demain tout de suite. Hein. Juste un mot pour revenir avec vous. On l'a peu évoqué sur les motivations de ce coup d'État. Que voulait l'armée exactement ? Vous dites que l'armée aujourd'hui n'aurait pas dû essayer de se mêler de politique. Quelque part, c'est pas son boulot. Dans le journal du dimanche ce week-end, Dorothée Schmitt de l'IFRI, elle était marquée par l'impression que ce coup d'État n'avait aucune profondeur politique.
Oui, Madame Schmitt a raison. Cela dit, il y a eu un communiqué qui a été lu sur la chaîne publique, investi par les putschistes. Le contenu de ce communiqué donc disait en gros qu'il fallait rétablir la démocratie et défendre la laïcité, etc. Mais peut-être était-ce une façade. En tout cas, l'état-major n'a pas suivi et il a bien fait. Et puis, comme la population est descendue dans la rue, le coup d'État a échoué. Maintenant, ce n'est pas en faisant des coups d'État militaires qu'on rétablit la démocratie.
Donc heureusement qu'il y avait autant d'amateurisme dans ce coup d'État, ça aurait pu être pire.
Je ne pense pas qu'il y avait de l'amateurisme. Il y a eu des problèmes de coordination entre eux. Et puis, d'après ce que je sais, le chef d'État-major a été informé vers 17 heures. Ce qui a fait que le coup d'État a été devancé à 22 heures, alors qu'il a été prévu à 4 heures du matin, quand il n'y a personne dans les rues. Alors qu'Istanbul reste tout de même une ville qui grouille de monde 24 heures sur 24. Donc, c'est un coup d'État qui a été bien préparé. Il visait à faire en sorte que les instances de décision militaire soient écartées. C'est pour cela que les généraux et le chef d'état-major ont été pris en otage. Et puis, il semble que les putschistes étaient quand même décidés. Bon, heureusement que ça a échoué, mais le bilan est très lourd.
Un homme aujourd'hui en ligne de mire du président Recep Erdogan, c'est Fethullah Gulen, qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années d'ailleurs. Est-ce que ce scénario vous paraît possible ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux qui est cette personnalité ?
Écoutez, la plupart de ces généraux putschistes seraient liés à la confrérie de Fethullah Gulen. Si c'est le cas, cela me paraît quand même très paradoxal.
Alors, il a démenti.
Cela veut dire que des islamistes ont voulu renverser d'autres islamistes qui se disent modérés. Et nous, qu'est-ce qu'on devient là-dedans ? Quand je dis nous, il y a aussi en Turquie toute une population n'est pas concernée par cette querelle intestine entre M. Gulen et M. Erdogan.
Querelle de longue date, hein. Ces deux hommes sont ennemis depuis...
Non, ils ont marché main dans la main pendant très longtemps. Et le président Erdogan a dit, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que nous lui avons donné tout ce qu'il a voulu de nous. C'est en janvier 2014, en plutôt décembre 2014, que les choses ont mal tourné. Donc, ce conflit remonte à 3 ou 4 ans, pas plus. Avant, c'était le Hoxha Efendi, monsieur Fethullah, donc était le cher Hoxha Efendi pour le président Erdogan et vice-versa.
Est-ce qu'aujourd'hui, le président Erdogan, selon vous, ressort vraiment affaibli de ce coup d'État ou au contraire renforcé par le vide qu'il va créer autour de lui et notamment dans les milieux, les cercles de ses opposants?
Moi, je pense que le président Erdogan sort renforcé de ce coup d'État avorté.
Et la démocratie affaiblie.
Et la démocratie, alors j'espère qu'elle va aussi se renforcer, mais c'est peu probable vu l'évolution de la situation, vu ce que vous appelez à juste titre la purge, et on va voir.
Quelle place pour des voix contestataires, hein, pour l'opposition aujourd'hui dans le débat public, ça va être très compliqué de s'exprimer dans les semaines et les mois qui viennent.
C'est possible, cela dit, et je veux rappeler tout de même que les 4 partis politiques ont été d'accord pour condamner le coup d'État. Il y a eu un consensus là-dessus. Et j'espère que cette situation va renforcer la démocratie. Mais cela me paraît peu probable, vu le rêve d'Erdogan. Il s'agit donc d'instaurer un régime présidentiel où la démocratie il n'existera pas.
À travers ce coup d'État se pose aussi la question où se joue la place, notamment de la Turquie au sein de l'Union européenne. Vous avez, Nedim Gürsel, en 2009 écrit un livre, La Turquie, une idée neuve en Europe, pour défendre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Un pays qui deviendrait instable politiquement, un pays où la démocratie serait menacée, aurait-il toujours sa place, d'après vous, dans l'Union européenne, la Turquie? Vous continuez à pouvoir imaginer une Turquie dans l'Union européenne?
J'aurais bien voulu, mais je suis très pessimiste. En effet, je suis un fervent partisan de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne, mais je constate que M. Erdogan a déjà tourné la page. Et sans cette perspective européenne, je pense que la démocratie ne peut pas progresser en Turquie, car les valeurs de la démocratie constituent le fondement même de l'Union européenne. Il y a la laïcité, il y a la liberté d'expression à laquelle je suis attaché personnellement en tant qu'écrivain, il y a les droits de l'homme, il y a l'économie du marché. Alors, si on respecte pas ces valeurs, on ne peut pas adhérer à l'Union européenne. Et avec le Brexit d'ailleurs, l'Union européenne en ce moment a aussi d'autres chats à fouetter,
oui,
comme
ça, c'est sûr.
Je dirais. Donc, l'adhésion de la Turquie me paraît tout à fait improbable. C'est pour cela que je suggère que le ministre chargé des affaires européennes aille plutôt à la pêche. Ce sera mieux pour tout le monde.
Juste, d'où peut venir aujourd'hui pour vous, Nedim Gürsel, le nouveau souffle en Turquie?
Le nouveau souffle, je ne vois pas d'où il peut venir. Il y a un conflit armé dans le sud-est. Il y a cette évolution, cette dérive autoritaire très palpable. Il y a la purge dont on vient de parler. Eh bien, la population descendue dans la rue soutient à fond Erdogan et pour le président, c'est une occasion d'avancer encore dans le sens du populisme.
Pas toute la population.
Pas toute la population, mais je constate qu'il y a une majorité qui est là, qui est bien décidée, qui réclame encore une fois le rétablissement de la peine de mort, qui crie vengeance, qui fait monter la tension, et la société turque est plus fractionnée que jamais.
Et rien du coup pour la réunifier. En tout cas pas la personnalité de Recep Erdogan.
Ce miracle qui peut-être aura lieu un jour.
Donc votre prochain livre, Nedim Gürsel, sera là encore sur l'autorité et ses dérives, ou vous êtes en train de chercher ailleurs?
Alors, je suis en train de travailler sur la perception du prophète de l'islam en Occident. Vous voyez que c'est un sujet délicat,
exactement,
mais en même temps qui me passionne. Évidemment, qui dit État dit autorité. Et Mohammed a fondé le premier État islamique à Médine au 7e siècle de notre ère. Et depuis, cette question aussi reste d'actualité.
Sujet passionnant et sujet effectivement délicat, mais ça, vous n'avez pas peur d'aborder des sujets délicats, on l'a vu avec les filles d'Allah, notamment Nedim Gürsel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Merci à vous.